Méditer sur la parole de Dieu, la Bible qu'un chrétien ne doit jamais abandonner, mais avoir à ses côtés et la lire, la méditer, mais aussi la vivre. Avec l'aide du Seigneur et de son esprit, je voudrais vous parler sur un sujet très simple, mais j'ai donné un thème à cette méditation, la parfaite guérison. Alors on va lire dans Luc, ceux qui ont le Nouveau Testament et la Bible, pourront suivre avec moi cette lecture dans Luc au chapitre 5 et au verset 17. Luc chapitre 5, verset 17. Je pense que vous avez tous trouvé, c'est pas compliqué à chercher, les évangiles. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Excusez-moi. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Excusez. Nous avons vu des choses étranges. J'aimerais en cet après-midi, et je pense que nous serons tous d'accord, que nous voudrions voir cet après-midi des choses étranges. Mais étranges dans le bon sens. Parce que les choses étranges qui sont soulignées là, c'est non seulement la parole qui a été annoncée par Jésus-Christ, mais les miracles qui ont été faits. Et ce que nous souhaitons dans nos cœurs, en tout cas en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que nous devons noter dans nos cœurs, mais aussi croire et proclamer, c'est qu'aujourd'hui, Dieu est toujours en Jésus-Christ, celui qui fait des prodiges et des miracles. Nous pouvons dire avec assurance, parce que nous avons des témoignages pas uniquement dans la région, mais dans le monde entier, qui démontre que Dieu est encore aujourd'hui le Dieu des miracles. Alléluia ! Nous ne devons pas en douter. Mais ici, je voudrais vous parler de la parfaite guérison, car en fait, nous assistons là à une guérison, la guérison d'un paralytique. Merci beaucoup. J'ai dû parler à des gens qui ont eu la grippe, excusez. C'est rapide. Excusez-moi. La sœur pourrait certifier, c'est de l'eau, ne vous inquiétez pas. Au cas où. Une guérison parfaite. Nous avons lu ensemble qu'il y avait là un homme paralytique qui a été amené dans la présence de Jésus. On s'aperçoit que le parcours n'a pas été facile pour amener cet homme paralytique dans la présence de Jésus. les quatre compagnons qui ont décidé d'amener ce paralytique dans la personne de Jésus, au pied de Jésus, l'ont fait déjà de tout leur cœur et ils ont pris, je dirais, des risques. Ils ont osé faire ce que peut-être personne n'aurait osé faire. C'est que quand ils n'ont pas pu accéder par la porte parce qu'il y avait une grande foule, ils ne se sont pas découragés et ils sont passés carrément par le toit. Bien sûr, vous le savez comme moi, dans ce pays-là, les toits sont des toits plats et on peut y accéder par des marches qui montent sur le toit. C'est ce qu'ils ont fait, ils sont montés sur le toit, ils ont fait un trou sans demander au propriétaire s'ils pouvaient le faire ou pas. Ils ont descendu le malade au pied de Jésus et Jésus a assisté à cela. Ce que je note particulièrement, c'est qu'il n'y a pas que Jésus qui a vu ce trou se faire, ce malade avec son lit descendre. Il a fallu quand même faire une ouverture assez grande pour descendre ce malade au pied de Jésus-Christ. Tout le monde l'a vu. Je n'étais pas dans l'assistance, vous non plus, mais je suppose que beaucoup de gens ont dû parler l'un entre eux. Peut-être a-t-il demandé la permission là-haut, de faire un trou là-haut au propriétaire. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a un mot qui est employé, c'est le mot « étonné ». Ils ont été étonnés de voir ce qui se passa. Ça fait une différence avec Jésus, parce que pour ma part, je ne crois pas que Jésus ait été étonné de voir ce corps descendre jusqu'à lui. D'ailleurs, il est écrit, et vous l'avez lu avec moi, que quand Jésus a vu ça, il n'a pas même fait trop attention au toit, il a vu ce qui se cachait derrière, le désir de ces hommes, le désir de paralytique, et vous avez vu qu'il est écrit, Jésus voyant leur foi. Qu'importe la maison, qu'importe ce que peuvent penser les uns et les autres, ce que Jésus voit, c'est la foi. Et je voudrais vous dire simplement cet après-midi que si vous venez avec foi vers le Seigneur Jésus, vous trouverez toujours une réponse à votre problème. Nous l'avons chanté tout à l'heure, nous l'avons entendu. Le Seigneur Jésus est toujours le même. Il est toujours celui qui agit et qui répond à la foi. Mais quand on regarde encore ce texte, on s'aperçoit que non seulement le Seigneur regarde à la foi qui va agir pour cet homme paralytique, également pour l'assistance qui est là, mais il va dire quelque chose d'important. C'est vrai que cet homme a été guéri, nous l'avons lu. Il se lève, à la fin du texte, il se lève, il prend son lit et il part. Et je suppose qu'il est parti dans une grande joie d'avoir retrouvé la santé, la mobilité. Et il l'a eu par la personne de Jésus-Christ, mais il l'a eu aussi en réponse à sa foi. Mais ce que je souligne en cet après-midi de plus important, c'est que quand cet homme est descendu dans la présence de Jésus, Jésus l'a vu, il a vu la foi, et il dit quelque chose de très important qui peut nous étonner. Mais si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous ne devez pas être étonné. Cet homme est venu chercher la guérison physique, et pourtant la première parole, et vous l'avez noté en lisant, je suppose, que Jésus dit à ce paralytique, c'est « non pas tu es guéri, mais tu es pardonné de tes péchés ». Ça, c'est très important. Être pardonné de ses péchés. Parce que s'il y avait, on va dire, une paralysie physique, ce qui veut dire que, vous le savez comme moi, je ne vous apprends rien, la personne ne pouvait pas bouger, puisqu'elle était alitée, elle ne pouvait pas bouger, paralysie complète. Ce que Jésus est en train de vouloir nous faire comprendre, c'est que le péché nous paralyse dans nos idées, nos pensées, nos actions. Nous sommes paralysés. Et le péché, autant le dire de suite, nous conduit à la mort. Non pas à la mort physique, parce que qui que nous soyons, c'est le chemin naturel. Nous naissons et un jour nous partirons. Ça, c'est la loi naturelle. Mais la loi de la parole de Dieu qui nous dit que si nous sommes sous le péché, si nous sommes esclaves du péché, nous irons directement à la mort éternel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérance de salut. Le péché nous paralyse dans la vie spirituelle et dans notre communion avec Dieu. Excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai attrapé, mais je l'ai attrapé. Alors. Or, le Seigneur Jésus, il est venu pour libérer tous les êtres humains du péché. Quelqu'un peut-être pourrait dire en cet après-midi, mais qu'est-ce que le péché en fait? On parle de péché, on entend parler de ce mot-là, mais c'est quoi péché? Eh bien, quand on regarde dans la parole de Dieu, le péché, c'est choisir le mal. Le mal. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est le rejet de l'amour de Dieu dans sa vie. C'est le désir de vivre comme bon nous semble, sans avoir aucune, entre guillemets dirais-je, autorité spirituelle sur notre vie. Je vis comme je veux, je pense comme je veux, je parle comme je veux, je fais ce que je veux, et rien ne pourra arriver. Mais là, vous vous trompez, car le péché vous conduira toujours à la mort. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu dira à son peuple, « Choisis la vie afin que tu vives, car si tu choisis la mort, le péché ou le mal, tu iras à la mort. » Dieu ne cache pas sa pensée, n'a jamais caché ses pensées, n'a jamais caché sa volonté. Et la volonté de Dieu aujourd'hui, comme au travers de tous les temps et dans l'avenir, c'est de sauver tous les hommes. La Bible nous dit ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Donc, bonne nouvelle pour vous, il veut vous sauver si vous ne l'êtes pas encore. Mais pour être sauvé, il faut être libéré du péché. Pour être sauvé, il faut, vis-à-vis du Seigneur, se reconnaître un pécheur. Et que, quoi que vous pensiez, l'homme, la femme, le jeune est pécheur depuis sa naissance. La Bible dit il n'y a pas même un juste, pas même un seul. Pas un seul juste. Alors si cet après-midi, quelqu'un se croyait juste, permettez-moi cette expression, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Puisque la Bible déclare que sur la terre, il n'y a pas même un juste, un seul. Il y en a eu un seul de juste. C'est le Seigneur Jésus. Et c'est parce qu'il a été juste qu'il a pu donner sa vie à la croix. Il a été déclaré juste pourquoi? Parce qu'il est dit du Seigneur Jésus qu'il a vécu sur la terre des hommes comme en étant homme, mais qu'il n'a jamais succombé au péché. Donc il a toujours fait ce que Dieu lui demandait, il a toujours fait la volonté de Dieu, il a été déclaré juste, et parce qu'il a été juste, il a pu donner sa vie sur la croix pour vous et pour moi. Merci Seigneur. Et si je crois dans le don de Jésus-Christ, si je crois à l'amour de Dieu manifesté au calvaire en Jésus-Christ, si je crois à son corps brisé, à son sang versé, si je reconnais qu'il est mort à ma place sur la croix, alors que lui juste et moi coupable à cause de ma vie qui a été contraire à la volonté de Dieu, si je me repens en lui disant « Père, pardonne-moi en Jésus-Christ de ma vie passée, change-moi, fais de moi une créature nouvelle, l'amour de Dieu descendra dans votre cœur, vous serez pardonnés de vos péchés, il ne sera plus tenu compte de vos anciens péchés, et vous serez et vous deviendrez par sa grâce un enfant de Dieu, héritier de la vie éternelle. » Alléluia. Peut-être quelqu'un pourrait penser et dire aussi, mais je suis venu en cet après-midi dans cette salle parce que j'ai entendu dire que le Seigneur guérit, et nous en avons parlé en introduction, c'est vrai que le Seigneur guérit les malades, ceux qui viennent avec lui avec foi. Mais je ne voudrais pas, entre guillemets, je veux dire, casser votre pensée, mais nul ne connaît la volonté quant à la guérison de nos corps. Est-ce que vous me suivez toujours là? J'espère que vous allez bien me comprendre. Nous sommes malades. Nous venons vers le Seigneur Jésus. Nous croyons à la parole de Dieu qui dit qu'il est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. C'est sa pensée, c'est sa volonté de guérir. Mais ça ne veut pas dire que la volonté de Dieu, elle soit bonne pour nous dans une guérison. Parce que le Seigneur nous connaît tel que nous sommes. Dites pas tous Amen. Et le Seigneur connaît notre avenir. C'est écrit tout ce que je vous dis là. Il connaît notre avenir. Et il sait ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Et il y a des circonstances dans lesquelles Dieu ne va pas agir, Dieu ne va pas répondre, Dieu ne va pas nous apporter la guérison de notre corps parce qu'il sait que dans un moment de difficulté, nous pourrons être dans une faiblesse qui va nous amener non pas au salut mais à la perte. Alors il nous garde dans une maladie qui fait que nous allons jour après jour nous attendre au Seigneur pour qu'il nous aide dans toute notre vie et dans toutes nos difficultés. Et là, le Seigneur est celui qui va bénir. Vous savez, quand je dis ça, vous devriez avoir à l'esprit, en tout cas ceux qui connaissent la parole de Dieu, qu'il y a un homme dans la Bible qui a prié pour être guéri de la maladie dont il avait été atteint. Et il a prié, jusqu'à ce qu'il ait une réponse de Dieu, et il a compris la réponse de Dieu, il dira qu'il n'a pas été guéri de la part de Dieu. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, parce que ma grâce va s'accomplir dans ta faiblesse. Et il ne m'a pas guéri de peur que je m'enorgueillisse. C'était sa faiblesse, l'orgueil. Et il connaissait, ce mal était plus grand que la maladie qui était dans son corps. Dieu l'a laissé dans sa maladie afin qu'il ne s'enorgueillisse pas et que par le ministère de l'apôtre Paul, des âmes soient sauvées en grand nombre. Et celui qui n'a pas été guéri a vu par son ministère de nombreuses personnes être guéries. Ah oui, alors ça peut changer les données. Oui, moi j'en suis convaincu que l'Éternel guérit. J'en ai fait l'expérience. Je suis convaincu que le Seigneur garde de la mort. J'en ai fait l'expérience. Pour moi, je ne serai pas là en cet après-midi. Je sais que dans la maladie, il est le soutien de ma vie. Mais je sais aussi qu'il fait des miracles. Il n'y a pas si longtemps qu'on a vécu ça avec mon épouse. Alléluia. Mais je sais une chose, c'est que s'il ne veut pas intervenir, c'est qu'il sait que j'ai besoin de sa grâce et qu'il ne veut pas que je tombe ou que je chute d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est très important. La volonté de Dieu au sujet de notre guérison, lui seul la connaît et lui seul sait pourquoi il le fait ou pourquoi il ne le fait pas. Mais la position et la volonté de Dieu est la même, c'est qu'il veut nous garder pour la vie éternelle. Alléluia. Nous garder pour la vie éternelle. Alors, qui que nous soyons, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, quelles que soient les circonstances de notre corps, ayons toujours confiance à Dieu. Voyez-vous, dans cette réflexion, je me souviens de ce témoignage vécu dans une certaine église ou dans une réunion d'évangélisation, c'était pendant une mission. Il y a deux hommes qui ont été amenés à cette réunion. Ils étaient paralysés, ils étaient sur des fauteuils roulants. Et la réunion a eu lieu, et comme la Bible l'enseigne, l'invitation fut faite pour que les personnes qui voulaient recevoir l'imposition des mains aux malades, au nom de Jésus, s'approchent et soient. Les deux sont venus. Et un des deux a été guéri miraculeusement, instantanément. L'autre, il est resté sur son fauteuil. Ça, c'est difficile à expliquer que sur les deux, il y en a un guéri et l'autre pas guéri. Pourquoi? Ça, un jour, ça sera révélé là-haut. Mais il est une chose certaine, c'est que celui qui n'a pas été guéri il s'est converti, il s'est tourné à Dieu. Il est devenu un instrument dans les mains de Dieu. Celui qui a été guéri, on ne l'a plus jamais revu. Dieu est au ciel. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il répond pas toujours comme nous le souhaitons, mais si nous lui faisons confiance, nous savons une chose, c'est que, malade ou pas malade, nous serons sauvés pour l'éternité. Voyez-vous, c'est ce que dit Jésus à ce paralytique. Il lui dit simplement, tes péchés te sont pardonnés. Ça, c'est la première victoire. Je te libère de tous tes péchés, maintenant tu es un homme libre. Tu es maintenant un enfant de Dieu. La grâce de Dieu t'a touché, tu es pardonné de tes péchés, ça y est, ta vie a été transformée. C'est ce que veut Dieu pour chacun d'entre nous cet après-midi. Il veut changer notre manière de vivre. Il veut faire de vous des enfants de Dieu, il veut faire de vous des héritiers de la vie éternelle. Il veut vous rendre libre. La Bible dit que lorsqu'il intervient, qu'il pardonne nos péchés, il nous rend libre, il nous affranchit. Alléluia. Il fait de nous de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, héritiers de la vie éternelle. Mais cet homme avait quand même quelque chose d'important qui ont déclenché ces paroles de Jésus. Cela s'appelle la foi. N'étais-je pas dit? La Bible dit, c'est Jésus qui le dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu seras sauvé. » Alléluia. Voilà la vérité. C'est la foi qui sauve. Parce que quelqu'un pourrait dire, « Oui, mais vous êtes bien gentil des péchés, vous dites que le mal, mais moi je fais pas mal d'actions. » Peut-être même des actions humanitaires. Je vous dirais, c'est très bien, et la Bible n'est pas contre ces choses. Mais la Bible révèle une vérité. La Bible dit, ce n'est pas les œuvres qui sauvent, mais c'est la foi en Jésus-Christ. C'est ça qui nous sauve. Le tout, c'est de savoir, amis qui êtes là cet après-midi, si vous voulez aller au ciel ou si vous ne voulez pas aller au ciel. C'est clair comme question. Vous savez, depuis longtemps, je m'élève contre ce chanteur et je le dis quand je le peux, et je vais le redire cet après-midi. Je ne suis pas d'accord avec ce chanteur qui dit « Nous irons tous au paradis. » Parce que je ne me vois pas assis à côté d'un voleur et d'un brigand qui ne s'est pas repenti. Peut-être ça arrivera, mais c'est celui de la croix qui s'est repenti. Mais celui qui ne se repent pas, il sera condamné à cause de ses péchés. Ah oui, non, il ne faut pas non plus mélanger les choses et croire tout ce qu'on vous dit ou tout ce qu'on vous susurre dans l'oreille. Ce qu'il faut croire, c'est ce que dit la parole de Dieu quant au plan de salut divin. C'est celui qui croira en Christ, en la parole de Dieu, en l'appliquant en son cœur, qui sera sauvé pour l'éternité. Alléluia. Alors, le tout, c'est de savoir cet après-midi si nous voulons aller au ciel ou si nous ne voulons pas aller au ciel. Et pour ne pas aller au ciel, il faut rester dans la position dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs. Parce que le pécheur ne rentrera pas dans le ciel. Mais celui qui confesse de tout son cœur que Jésus est le Seigneur et qu'il accepte comme maître et sauveur dans sa vie, il sera sauvé pour l'éternité. C'est une question de foi, mais c'est aussi une question de confiance. La foi nous apporte pardon, salut et guérison. Alléluia. Mais pour le Seigneur Jésus, ce qui souligne ici, en fait, et vous l'avez remarqué, ce n'est pas l'importance de la guérison, c'est l'importance du salut. Première parole de Jésus à cet homme, je le répète sciemment, tu es pardonné de tes péchés. Et alors là, en repensant et en méditant, je me suis posé une petite question. Mais j'ai la réponse, je ne sais pas quelle est votre position. Mais quand nous avons lu tout à l'heure que cet homme s'en alla de ce lieu en glorifiant Dieu, je me suis posé la question, il était joyeux et glorifié Dieu, pourquoi? Parce qu'il était pardonné de ses péchés ou parce qu'il était guéri? Je suis sûr que vous avez la réponse et que certains sont déjà en train de penser, pour les deux. Vous avez raison, mais pour moi, je pense qu'il a glorifié Dieu d'abord pour son salut. Je suis sauvé, alléluia. Maintenant, Seigneur, tu me donnes la guérison, gloire à ton nom. La question qui est posée sur vos cœurs cet après-midi au travers de la parole de Dieu est celle-ci. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous avez la certitude de votre salut, Est-ce que vous êtes pardonné de vos péchés? Vous qui êtes là peut-être pour la première fois. Et si vous avez été pardonné de vos péchés, soyez de ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur. Vous savez, il est plus important, je dirais, et j'espère que vous me comprendrez, il est plus important d'être pardonné de ses péchés que d'être guéri. Et je vous dis ça parce que dans la Bible, il y a quand même quelque chose de merveilleux, c'est que quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit que dans le ciel, il n'y aura plus de malades. Alléluia. C'est fou, ça a l'air de vous faire plaisir. Plus de larmes, plus de deuil, tout sera félicité, alléluia. Gloire à Dieu, si je suis sourd de l'oreille, là-haut j'entendrai des deux. Alléluia, ça fait sourire, hein, pourtant c'est ça. Je vais partir, Dieu garde, je partirai un membre en brun, quand j'arriverai là-haut, il n'y aura plus d'handicap. Parce que là-haut, tout est parfait. Alléluia. Et la Bible dit, réjouissez-vous. C'est pas... Qu'est-ce qu'il dit, le frère, là? Il dit ce qui est écrit. Hein? Réjouissez-vous. Réjouissez-vous de ce que vous êtes enfant de Dieu. Réjouissez-vous de ce que vous connaissez la vérité. Réjouissez-vous de ce que vous avez des promesses et que les promesses de Dieu sont oui, amen. Réjouissez-vous car vous recevrez la couronne de la vie. Alléluia. Réjouissez-vous, vous qui avez dit, Seigneur, pardonne-moi, et qui le suivez jour après jour. Réjouissez-vous, vous verrez sa gloire. Dans un état parfait. Amen. C'est vrai que les problèmes de la vie sont là. Soyons honnêtes jusqu'au bout pour terminer. Le Seigneur nous dit qu'il nous pardonne de nos péchés et c'est ce qui fait notre joie, notre grande joie. C'est vrai qu'il a dit qu'il nous gardait tous les jours et c'est vrai aussi. C'est l'auditeur invisible mais présent à chaque repas. J'aime bien cette expression. Ce que je suis en train de vous citer, je l'ai eu pendant des années dans la salle à manger de mes parents. Un cadre où quand on était à table, avant de manger, comme vous le faites certainement, on priait le Seigneur, on le remerciait. Et la première des choses qu'on voyait quand on arrivait dans la salle à manger, c'est le Seigneur est l'hôte invisible, mais présent à chaque repas. Et d'un seul coup, ça fait trier la conversation. Parce qu'autour d'une table, qu'est-ce qu'on peut dire, excusez l'expression, comme bêtise, comme ânerie, comme des phrases griboises, à croire que la table, on se laisse aller pour dire n'importe quoi. Mais on oublie qu'en tant que chrétien, le Seigneur est là au milieu de la table. En bout de table, je ne sais pas. Il ne faut pas non plus abuser et dire là, le Seigneur est là, je lui mets une assiette et des fourchettes. Non, ça c'est abusé. Mais le Seigneur est là. Il est là dans notre salle à manger. Il est là dans la cuisine. Il est là dans la chambre à coucher. Ça peut vous surprendre. Hein? Il sait, il voit tout. Et rien ne lui est caché. Il voit tout et il entend tout. Et il est même dit dans la Bible, et nous aurons à rendre compte. Mais le Seigneur est présent. Il sait nos faiblesses. Il nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que nous l'écoutons? Est-ce que nous rectifions le tir quand il faut le rectifier? Ou est-ce que nous persévérons dans cette voie et tout chrétien que nous sommes, nous pouvons retomber dans le péché? l'apôtre disait, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Le siècle présent ou l'amour de mon Dieu? Qu'est-ce que j'aime le plus? La vie de ce monde ou la vie que Dieu me propose au travers de Saintes Écritures, qui me demande certainement des sacrifices, qui me demande d'abandonner certaines choses, pensées, paroles, agissements. Mais le monde me propose la mort parce que le monde est péché et que le prince de ce monde a un nom qui s'appelle Satan. Moi j'ai un prince, mais son nom c'est Jésus. C'est le prince de la paix. S'il règne dans mon cœur, s'il règne dans ma vie, alors je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et je te le souhaite. Reconnais tes erreurs, reconnais ton péché, reconnais tes égarements. Tourne-toi vers le Seigneur, invoque-le. Il est là pour t'écouter, pour recevoir ta prière. Et si tu es un être repentant, le Seigneur te pardonnera, car il ne se lasse pas de pardonner. Parce qu'il nous aime d'un amour infini. Oui, je sais que tu aimerais avoir la guérison de ton corps et Dieu peut te la donner. Mais n'est-il pas plus avantageux d'avoir avant toute chose la guérison de ton âme? Ce soir, tu peux avoir la guérison de ton âme et la guérison de ton corps. C'est ce que j'appelle la guérison parfaite. Tu peux sortir complètement transformé ce soir. Et même si on a des souffrances dans notre corps, ce qui est important, c'est de savoir que le Seigneur est celui qui nous aide et qui nous fortifie, qui nous renouvelle ses grâces, qui nous donne la force de nous lever le matin, de nous coucher le soir, de supporter la douleur de notre corps. Il nous aide en tout cela. Et en plus de cela, il nous encourage, il nous parle par son esprit, il renouvelle notre pensée et il nous fait témoigner de l'amour de Dieu dans nos vies. Et c'est ainsi que parfois, en rendant témoignage, il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont aussi connaissance de nos problèmes et nos difficultés et qui nous disent « Mais comment vous faites pour supporter tout cela avec ce que vous souffrez ?» Et la joie, c'est de répondre « Parce que Jésus est mon ami et il m'aide. » Alléluia. C'est ça la vérité de tout homme, de toute femme, de tout jeune. De tout jeune, qui veut vivre avec le Seigneur. Il y a un départ. Le départ, c'est de se reconnaître pécheur. Et ensuite, c'est de dire, Seigneur, viens dans mon cœur et fais de moi un être nouveau qui honore ton nom, qui te glorifie, qui se prépare pour ton retour ou pour moi-même à partir de cette terre et à te rencontrer. Seigneur, fais ton œuvre en moi et que je sois un bon serviteur, une bonne servante. Vous savez, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, il est dit ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, guérison parfaite, hein, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est beau ce verset, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle belle parole de Paul à l'église de Thessalonique. Mais je terminerai en vous disant simplement ceci, c'est que pour accéder au ciel, l'apôtre Paul emploie un mot très précis. Que nous soyons conservés irrépréhensibles. Vous savez ce que ça veut dire, irrépréhensible? En fait, ça veut dire sans reproche. Et là, je suis d'accord avec vous, ou peut-être tout seul, à dire, Seigneur, continue ton œuvre en moi. Oui, un jour, je me suis reconnu pécheur. Et puis, j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Mais j'ai dû commettre quelques erreurs. Quelques fautes. Je ne vous incrimine pas, mais la nature de l'homme est ainsi faite. Mais je sais une chose, que j'ai un avocat auprès du Père, et si je lui dis en sincérité de cœur, Père, pardonne-moi. En Jésus-Christ, il est celui qui me pardonne. Et la perfection, je ne l'aurai que lorsqu'il m'ouvrira le ciel. Alléluia. Et je vous le souhaite à tous, qu'on se retrouve là-haut. Bon, alors, vous ne voulez pas me voir. Vous n'avez pas dit Alléluia, ni Amen, ni... Hein? Eh oui, on devrait dire Alléluia, se revoir là-haut, dans une perfection complète. Alors, je termine en vous disant deux versets. Le premier verset, c'est celui-ci. Je trouve qu'il a l'importance, cet après-midi, ce verset, pour ce que nous venons de dire. C'est une parole de Jésus. Une parole de Jésus qui a été donnée à une femme. À une femme qui vivait dans le mal. On ne va pas chercher le pourquoi de ce mal, de cette situation, je voudrais dire entre guillemets cette profession, mais c'est appelé la femme adultère. Alors, l'adultère était condamnable par les hommes. Alors, quand cette femme a été prise en état flagrant, Jésus était là, dans la ville, alors les hommes, toujours pareil, ayant une certaine connaissance de la Bible, de Jésus, qui dit, docteur, alors il l'amène. Hey, « Et toi, que dis-tu au sujet de cette femme ?» Eh bien, vous remarquerez en lisant le texte que Jésus n'a rien dit à cette femme. Si, il va y dire, mais pas tout de suite, de suite. Il va d'abord s'adresser à ceux qui accusent cette femme. Et vous savez ce que dit Jésus à cette foule qui est là, des hommes là ? Il va leur dire simplement que celui de vous qui est sans péché, il jette le premier la pierre. Mais dites donc. Là, ils ont commencé un petit peu à réfléchir. Et chacun reprit dans son cœur. Et j'aime bien cette précision qui est dite. Du plus vieux jusqu'au plus jeune. Pourquoi du plus vieux? J'ai la réponse. Parce qu'ils ont plus d'expérience. Du plus vieux jusqu'au plus jeune. Ils ont tous laissé tomber leur pierre. Permettez-moi une petite accommodation cet après-midi. Je ne vous connais pas tous là. Est-ce que parfois vous n'entendiez pas le Seigneur Jésus vous dire ben, si tu es sans péché, jette-lui la pierre. Ou est-ce que nous sentons une accusation profonde de notre cœur, du Seigneur Jésus, en train de nous dire, mais tu es un pécheur. Tu es une pécheresse, tu n'as pas fait le même tableau que cette femme, mais tu ne vis pas conformément à ma parole. Tu vis avec le monde. Tu as commis d'autres péchés, d'autres délits, d'autres mal. Et tu te considères juste. Mais de quel droit ? Tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Et ces hommes qui se sont sentis accusés parce qu'ils se sont sentis accusés, repris, ils ont laissé tomber leur pierre et ils sont partis, mais à leur place. Et j'espère que c'est ce que vous allez faire après-midi. À leur place, on tombe à genoux, on dit « Seigneur, pardonne-moi ! Tu parles à mon cœur, tu me montres ce défaut, ce péché, cette iniquité, cette immoralité. Mais pardonne-moi, Seigneur, je veux pas périr ici avec le monde, je veux être sauvé. Pardonne-moi. » C'est ce que Jésus a fait pour cette femme. Quand tous sont partis, il se tourna vers la femme. Il dit, « Eh femme, où sont tous ceux qui t'accusaient ?» Je ne sais pas, ils sont tous partis. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus. Oh, quelle parole de soulagement pour la femme. Mais il y a quand même une recommandation. Va et ne pêche plus. Ce qui veut dire après-midi, si tu te repens, si tu dois te repentir, que te dit le Seigneur ? Je te pardonne. Ta foi fait que je te pardonne. En mon amour, je te pardonne. Par mon sang, je te purifie. Je fais de toi une nouvelle créature. Mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Pourquoi ? Parce que dans la parole de Dieu, et c'est mon dernier verset. Il y a une promesse qui se trouve dans l'Apocalypse. C'est vrai qu'elle est donnée à l'église de Smyrne, mais on peut la faire nôtre. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Voyez-vous que c'est beau ça. Hein, c'est beau. Paul était malade, mais il a été un bon serviteur. Et à la fin, que dira-t-il à Timothée? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la vie, la justice m'est réservée. Alléluia. Quelle assurance! Il n'avait pas eu la guérison, mais il est convaincu d'une chose. Il aura la couronne. Alléluia. Quelle grâce. Voulez-vous que nous prions ensemble? Que nous prions ensemble.